Think tank.
Zennosti.
Reflexion. Sport und Staatsbürgerschaft.
Sport a obtjansti.
Euradio Nantes vous présente Sport et citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne.
Émission mensuelle du think tank Sport et citoyenneté. Nous recevons aujourd'hui les acteurs du sport et du handicap pour cette émission en partenariat avec la région Pays de Loire. Cette émission sera animée par Inès Boutard du think tank Sport et Citoyenneté et par moi-même, Maxime Leblanc. Donc, pour discuter de cette thématique aujourd'hui avec nous, Emmanuel Rorteau, chef du service des sports, jeunesse et éducation populaire au Conseil régional. Nous aurons également la chance d'avoir avec nous Joël Soulard, élu en charge de la politique sportive au Conseil régional également. Arnaud Assoumani sera avec nous, l'athlète français qualifié d'ores et déjà pour les Jeux paralympiques et en lice pour les Jeux olympiques. Jean-Pierre Montgarny nous rejoindra, secrétaire général de la Fondation d'entreprise du Crédit Coopératif. Et nous aurons également la chance de pouvoir discuter avec Bruce Rock, directeur RSE du groupe Adecco France. Je passe la parole tout de suite à ma collègue Inès Boutard.
Aujourd'hui, nous aborderons plusieurs problématiques qui sont d'actualité. Quel est le rôle d'une collectivité territoriale dans la politique de soutien aux personnes handicapées? Quels dispositifs mettre en place pour valoriser la pratique sportive handisport? Quelle place a le handicap aux Jeux Olympiques? Ou encore, comment et pourquoi une entreprise s'investit-elle en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap? Pour traiter ces différentes problématiques, nous aurons trois grandes parties de notre émission. La première, où nous mettrons en avant la région Pays de la Loire, qui est une région très dynamique et en termes d'initiatives sport et handicap. Une deuxième partie qui valorisera son engagement pour les Jeux Olympiques, notamment à travers le club ligérien. Et enfin, une troisième partie pour dessiner un petit peu plus le rôle des entreprises et fondations dans le mécénat en faveur du handicap.
Alors Inès, quelques chiffres pour ceux qui nous écoutent et pour nos intervenants aussi, pour cadrer un petit peu ce sujet au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, 10% de la population de l'Union européenne serait en situation de handicap. Ça représenterait environ 80 millions de personnes. Et on a une distinction aujourd'hui sur la pratique et l'accès à la pratique sportive entre les valides et les personnes en situation de handicap, puisque les chiffres nous disent que 36% des valides ne pratiquent aucune activité physique, lorsque 56% des personnes en situation de handicap ne pratiquent aucun exercice quotidien. Donc ça nous cadre un peu ce sujet et nous permet de démarrer, d'entrer sur cette première partie, sur les politiques régionales en région Pays de Loire.
Oui, bonjour Emmanuel Rorteau, chef du service des sports, jeunesse, éducation populaire. Merci de nous rejoindre.
Bonjour.
Monsieur Soulard, élu en charge de la politique sportive. Merci également d'être parmi nous.
Bonjour.
Je vous donnerai la parole, monsieur Soulard, pour nous essayer de nous dresser un petit peu l'étendue de vos actions dans le domaine du handicap et du sport en Pays de la Loire.
Alors, la région Pays de la Loire, avant de parler de sport handicap, de parler du sport en général, donc quatrième région de France au niveau de la pratique, avec dans notre politique des axes forts, le sport de haut niveau, mais aussi le développement du sport pour tous. Et quand on parle de développement de sport pour tous, eh bien il y a le mot pour tous. Et donc à partir de là, c'est aussi des actions en direction des personnes handicapées ou des personnes concernant le sport adapté. Donc c'est tout un volet de notre politique sportive qui a été développé à travers un plan sport handicap. Alors ce plan sport handicap, il est issu de la visite, je dirais, du déplacement du président Auxiette en 2008 aux Jeux paralympiques de Pékin, où il a été très impressionné et très admiratif des qualités sportives et humaines des sportifs qui participaient à ces Jeux. Et à partir de là, un plan a été établi, un plan de 4 ans, qui tourne autour d'un certain nombre d'axes. D'abord, la professionnalisation des structures. La région intervient à l'aide des emplois tremplins. 5 emplois tremplins ont été créés dans les comités régionaux et départementaux handisport et de sport adapté. Ensuite, le soutien, évidemment, aux deux comités régionaux que sont le comité handisport et le comité de sport adapté, au même titre que l'on soutient les ligues et les comités régionaux des sports valides. Un appel à projet de matériel sportif à destination des clubs, et c'est plus de 340 000 euros de financement qui ont vu le jour pour près de 70 projets. Alors c'est des projets d'achat de matériel, ça peut être des fauteuils, des joëlettes ou du matériel pédagogique. Et puis ensuite l'actualisation de la charte régionale de développement du handisport. Et puis, bien évidemment, comme pour les valides, la valorisation des athlètes de haut niveau, donc des athlètes qui peuvent être amenés à participer aux Jeux paralympiques.
Justement, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus, monsieur Rorto, sur la question de la professionnalisation ?
Alors, il y a des dispositifs au sein du Conseil régional qui sont plus du ressort des aides à l'emploi et à la formation professionnelle. Et dans le cadre de ces dispositifs, les emplois tremplin, les aides ont été ciblées sur les structures, les instances du sport, du handisport, pardon, et du sport adapté. À partir de là, un accompagnement a été mis en place auprès des associations, notamment au travers du dispositif local d'accompagnement, pour aider ces associations à se structurer, à élaborer un projet associatif et utiliser comme il se doit ces emplois.
Justement, y a-t-il assez d'éducateurs spécialisés, de personnes pouvant encadrer cette pratique qui est finalement un peu méconnue dans le sport en général ?
Alors, on a des chiffres qui laissent entendre effectivement certains manques en matière d'encadrement, puisque suivant le handicap, évidemment, ça mobilise plus de personnes qu'une activité sportive traditionnelle. Et puis surtout, ça nécessite aussi une formation adaptée sur l'approche que l'on peut avoir avec ces personnes. Bon, en même temps, je pense que les clubs sont quand même structurés. Il y a une volonté de la part des comités régionaux, y compris valides, de pouvoir mieux accueillir ce public. Maintenant, la question essentielle, c'est surtout d'attirer les jeunes et les moins jeunes en situation de handicap dans les clubs pour pratiquer, avec tous les avantages que cela peut apporter.
Vous nous parlez de sensibilisation. Quelles actions, quels leviers utilisez-vous pour justement amener toutes ces personnes en situation de handicap qui ne sont pas encore au sein du mouvement sportif, monsieur Soulard ?
Je crois qu'il faut avoir un travail sur l'ensemble du mouvement sportif, et c'est les réflexions qui ont été menées à travers la conférence consultative du sport, puisque il y a eu un gros travail qui a été fait. La charte régionale est issue de ces travaux, l'appel à projet est issu aussi de ces travaux, et je pense que ça permet aussi de mettre en relation à la fois les comités régionaux handisport et sport adapté, et puis les ligues et les comités régionaux de sport valide, puisque l'objectif aussi c'est que les sportifs handicapés puissent intégrer des structures avec les valides, et je crois que c'est un des principaux travaux à réaliser, c'est-à-dire intégrer ces sportifs dans les clubs qui existent déjà, alors en collaboration bien évidemment avec les comités régionaux de handisport et sport adapté.
Justement, un petit rappel pour nos auditeurs pour essayer d'expliquer un petit peu la différence entre le handisport et le sport adapté. Donc le handisport concerne les handicaps moteurs, visuels et auditifs, tandis que le sport adapté concerne plutôt le handicap mental, intellectuel ou psychique. Donc la région Pays de la Loire est le partenaire de tous les handicaps.
Bien sûr, on ne fait pas de différence entre les handicaps. Je pense que chaque handicap a ses spécificités, mais on doit porter le même regard, quel que soit le type de handicap.
Vous devez du coup vous réjouir de la décision du Comité international paralympique en 2008, de réintégrer le handicap mental au niveau des Jeux olympiques, parce que pour la petite histoire, après les Jeux paralympiques de Sydney en 2000, les handicapés mentaux avaient été exclus des compétitions après un scandale qui avait abouti à retirer l'équipe espagnole de basket qui était médaillée d'or et qui avait au sein de son effectif 10 de ses 12 joueurs qui n'étaient affectés d'aucun handicap mental. Donc effectivement, ça pose la question aussi du handicap qui est assez difficile à évaluer aussi bien dans le handisport que dans le sport adapté.
Oui, mais je pense que il faut pas s'attacher trop à cette difficulté. Il faut avant tout développer les Jeux paralympiques à la fois pour le handisport, pour le sport adapté. Si effectivement on veut supprimer tout ce qui a été engagé parce qu'il y a eu des cas un petit peu compliqués, je pense que dans le sport valide, on va en trouver peut-être 10 fois plus de cas un peu compliqués. Je reviendrai pas sur toutes les affaires qui ont marqué l'histoire des Jeux olympiques. Je crois que c'est une très bonne chose que le sport adapté soit réintégré dans ces Jeux paralympiques, parce que on n'a pas à faire de différence entre les handicaps, et je pense qu'il faut donner la possibilité à chacun justement de pouvoir pratiquer du sport et puis de pouvoir le pratiquer au plus haut niveau.
C'est de belles paroles que j'espère beaucoup d'autres régions continueront à suivre. Vous nous parliez tout à l'heure de la conférence régionale consultative du sport. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres, quelques mots des résultats qui ont été qui ont abouti, Monsieur Horto?
Joël Soulard l'a évoqué tout à l'heure. Au sein de cette instance qui regroupe à peu près toutes les composantes, toutes les familles d'acteurs du sport sur un territoire comme la région, différents sujets ont été abordés pour améliorer les dispositifs et au-delà les politiques de chacun des acteurs. Et puis deux initiatives ont été conduites. D'abord, la mise en place d'un appel à projet matériel sportif, et puis la refonte de la charte régionale des activités sportives pour les publics handicapés. Donc, à partir de là, plusieurs réflexions, plusieurs échanges, et puis donc des dispositifs qui sont marketés, j'ai envie de dire, conférence régionale consultative. C'est important parce que c'est en additionnant les interventions et au-delà de ça les financements de chacun des acteurs qu'on peut avoir un effet réel et important en termes d'action.
D'accord, je vous remercie. Concernant l'accessibilité des infrastructures sportives pour les handicapés, quelles ont été les actions menées par la région Pays de la Loire ces dernières années?
Alors, concernant les équipements, la région Pays de la Loire a une position un peu particulière, puisqu'on n'est pas, nous, région, la collectivité qui construit les équipements sportifs. Et non plus, on n'est pas la collectivité qui gère les équipements sportifs. La plupart des équipements sportifs ont été construits et gérés par les communes. Bien évidemment, il y a un certain nombre de lois qui doivent s'appliquer à tous concernant l'accessibilité des bâtiments publics et des équipements sportifs en particulier. Je crois que la réflexion qui a été menée par la région Pays de la Loire, et notamment à travers 11 ligues qui ont travaillé leur schéma de cohérence des équipements sportifs, donc qui ont eu une réflexion à 20-30 ans sur l'avenir de leur sport et ce qu'il faudrait en termes d'équipement pour développer leur sport. Mais à travers cette réflexion, il y a aussi la réflexion de dire vers quels équipements on se dirige et comment on peut effectivement concevoir des équipements qui soient accessibles et surtout adaptés à une pratique sportive pour les handisports et les sports adaptés.
Alors pour ces équipements, il faut de l'argent pour ces infrastructures, pour financer c'est la construction de tous ces équipements. Les subventions peuvent être régionales, elles sont nationales. On y pense un petit peu moins, elles peuvent aussi être européennes. que ce soit pour les infrastructures ou pour d'autres projets. À ce titre, Sport et Citoyenneté publie un état des lieux des subventions européennes dans le domaine du sport. Donc un véritable document pédagogique et utile pour les porteurs de projets, pour appréhender les problématiques européennes au niveau du financement, qui sont souvent relativement compliquées. Donc on met ce document à disposition pour nos membres sur notre site internet. Et n'hésitez pas à le consulter. C'est extrêmement, extrêmement pédagogique et il vous aidera dans votre recherche de financement.
Donc le site internet, je le rappelle, www.sportetcitoyenneté.com. N'hésitez pas à nous suivre. Nous nous retrouvons après une courte page musicale.
My senses left me, the temperature of your quiet body made my heart stop. I so need to love you, the river is low and fights as the ice grows. I think that you know. And if there is fake, and if there is real life, and if there's mistake, let the tide grow in your arms. I can change all of you. Feel so bad. You're the meanest girl I've ever had. Looking at you drives me mad. Kissing you doesn't make me glad. Polly, I feel so bad. You're the most wicked girl I've ever had. I wanna sleep without that. I could try not to make you sad. Trapdoor, give me escape. A mind machine to memorize her wonderful face.
Et citoyenneté.
Bienvenue sur l'émission Sport et Citoyenneté sur Euradio Nantes, le seul think tank européen dans le domaine du sport. Nous allons aborder aujourd'hui en deuxième partie l'engagement du Pays de la Loire pour les Jeux Olympiques, notamment à travers de son club ligérien. Donc les Jeux Paralympiques cette année seront à Londres du 29 août au 9 septembre. 20 catégories sportives seront représentées. Soit aussi quelques 4200 athlètes qui seront attendus, avec environ 250 personnes en plus que lors des Jeux Olympiques de 2008, avec plusieurs bonnes nouvelles également, 165 pays représentés, soit 19 de plus qu'aux Jeux de Pékin, et donc 15 nations qui participeront pour la première fois à ces Jeux Olympiques. Donc beaucoup de bonnes nouvelles et de bonnes perspectives pour 2012, monsieur Soulard.
Oui, des bonnes nouvelles. On voit bien que les Jeux paralympiques montent en puissance, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, puisque autant les Jeux olympiques des Valides restent un événement majeur tous les 4 ans, regardé par la planète entière, je pense qu'il faut qu'on essaye de faire en sorte que ces Jeux paralympiques deviennent aussi un événement mondial qui intéresse l'ensemble des citoyens du monde, et puis qu'on puisse avoir une couverture télévisée de plus en plus importante, que chacun puisse bien se rendre compte des exploits que font ces sportifs qui sont du même ordre que les exploits que font les valides, et même quelquefois peut-être encore plus grands que ceux des valides.
Oui, le spectacle est souvent plus spectaculaire que l'on peut croire, et vraiment d'agréables moments derrière sa télévision, dans les stades ou au bord du terrain sont attendus si vous avez la possibilité d'aller soutenir ces athlètes durant ces Jeux paralympiques. Justement, la région Pays de la Loire, elle a bien compris tout cet enjeu. Elle soutient les athlètes paralympiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Monsieur Horto, sur le soutien que vous apportez à tous ces athlètes?
Les dispositifs destinés aux sportifs de haut niveau sont bien évidemment ouverts aux sportifs handisport et sport adapté. À ce titre, ils peuvent bénéficier des aides individuelles sur la base du double projet sportif et professionnel. Donc ça, tout au long de l'année.
Vous pouvez peut-être le développer un petit peu. Qu'est-ce que le double projet? Les auditeurs ne sont peut-être pas encore au courant.
Alors, ces mesures sont destinées aux sportifs qui poursuivent leur carrière sportive, qui se donnent donc des objectifs sportifs, tout en menant conjointement leur formation, qu'elle soit scolaire ou post-bac à l'université, et même au-delà, nous aidons les athlètes pour leur insertion professionnelle par le biais de conventions d'objectifs auprès des entreprises qui les emploient, moyennant que les entreprises les libèrent pour s'entraîner ou participer à des compétitions.
Donc vous soutenez bien ce double projet à la fois pour les valides et invalides.
Exactement. Et ils bénéficient également des bourses, des aides à la préparation olympique. C'est un dispositif qui se met en place 3 ans avant les Jeux, sur la base des listes établies par les fédérations au regard des résultats internationaux. Nous soutenons les athlètes dans leur préparation afin de prendre en charge une partie des frais inhérents à cette préparation, tels que les déplacements sur les compétitions ou l'achat de matériel spécifique.
Très bien. Est-ce que vous voulez un petit peu compléter, Monsieur Soulard, votre engagement par rapport à ces Jeux paralympiques cette année, spécialement à Londres 2012?
Oui, mais en général, si, pour revenir un petit peu sur les mots d'Emmanuel, je crois que la particularité de la région des Pays de la Loire, c'est que ce sont les mêmes aides pour les sportifs handisport ou sport adapté que pour les valides. Et je crois que c'est absolument important d'avoir exactement le même règlement d'aide, les mêmes sommes qui sont attribuées aux sportifs suivant leur catégorie. Et par là même aussi, on a au niveau valide quelques sportifs qui sont désignés comme ambassadeurs de la région Pays de la Loire, qui sont aidés plus particulièrement. On en retrouve aussi en e-sport de la même façon. Et je crois que c'est ce qu'il faut bien montrer, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le e-sport ou le sport valide.
Super. Combien d'athlètes, justement, soutenez-vous, à la fois valides et invalides, pour ces Jeux olympiques?
Alors, a priori, pour les Jeux Olympiques, on est sur, je pense, une douzaine d'athlètes qui sont présélectionnés pour les Jeux paralympiques. Donc, les sélections vont se terminer sur les Jeux Olympiques.
Il y en a une trentaine.
Une trentaine
en présélectionnés. Bon, la liste s'affine au fur et à mesure. Et en tout cas, la région peut s'enorgueillir d'avoir en voile 5 athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques, plus 1 sur les Jeux Paralympiques. C'est un record, en tout cas sur les dernières Olympiades, et ça constitue quand même un gros pourcentage de la délégation française de cette fédération.
Justement, en parlant d'athlètes soutenus par la région Pays de la Loire, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir dans notre émission un athlète que vous soutenez, Arnaud Assoumani.
Sport et citoyenneté.
Bonjour Arnaud Assoumani, merci de nous rejoindre pour l'émission Sport et citoyenneté sur Euradio Nantes. Vous êtes aujourd'hui en direct des championnats de France à Angers. Quels objectifs pour ce championnat ?
Bonjour, alors je suis pas encore au championnat de France à Angers, là je sors d'une séance d'entraînement à l'INSEP et je pars demain en fait pour le championnat de France à Angers. Alors ben, mes objectifs en fait moi cette année c'est de me qualifier pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc je suis déjà qualifié pour les Jeux Paralympiques et le but ce week-end à Angers pour moi ben, ça va être de réaliser déjà une bonne performance et d'être sur le podium quoi.
Alors Arnaud, parlez-nous un petit peu de ce projet pour les JO. Nous savons que vous êtes soutenu par la région Pays de Loire. Comment êtes-vous arrivé à ce projet ? Comment avez-vous réussi à convaincre la région de vous soutenir sur cette démarche ?
Alors bah moi j'ai convaincu personne. Hein. Après tous les sportifs ont des objectifs et des projets propres à eux-mêmes. Moi en fait j'ai cette ambition de participer aux Jeux Olympiques depuis longtemps dans ma tête. Et elle s'est concrétisée, on va dire, sportivement et dessinée clairement après mon titre en 2008 aux Jeux Paralympiques de Pékin. Et j'avais réalisé 7m23, qui était le record du monde à l'époque. Et je me suis dit, j'ai encore une très grosse marge de progression, puisque j'avais eu 4 années difficiles de blessures. Et là, je me dis, bon, bah, je pense que cet objectif est dans mes cordes. Et j'ai beaucoup progressé depuis, un record à 7m91 et des minima qui sont à 8m20. Donc voilà, il y a encore du chemin à parcourir, mais on va dire que je suis à un pied de ces minima et de l'ombre.
Concrètement, la région Pays de la Loire, comment elle vous soutient ?
En fait, il y a un soutien auprès de plusieurs sportifs déjà moral depuis plusieurs années, également financier, tout simplement. Quand on est sportif de haut niveau et qu'on est dans un sport olympique ou paralympique, on n'est pas payé par nos clubs, où on n'a pas des salaires comme les footballeurs ou les basketteurs, par exemple. Donc, du coup, on a besoin d'aide aussi pour s'entraîner dans les meilleures conditions. Et heureusement qu'il y a la région des Pays de la Loire qui me soutient également, car avec les partenaires, c'est ce qui constitue notre paye, on va dire.
Et pour ces Jeux Olympiques, qu'est-ce qui vous motive particulièrement pour concourir dans la catégorie des valides ? Est-ce que pour les athlètes en situation de handicap, c'est une fin en soi d'accéder aux Jeux Olympiques ?
Alors non, pas du tout. C'est pas pour moi, c'est pas du tout une fin en soi. C'est un objectif qui est très personnel et aussi. Moi j'ai tout le temps, alors je suis né sans avant-bras gauche, je me suis tout le temps entraîné et j'ai fait des compétitions avec les valides. Je suis arrivé au handisport en 2003 et j'ai commencé l'athlétisme en 1997. Donc pour moi en fait c'est quelque chose de logique par rapport à la concurrence en fait, tout simplement. J'ai gagné et remporté avec de l'avance le titre à Pékin il y a 4 ans. Donc je vais là où il y a le meilleur niveau, où il y a le plus de challenge, c'est avec les valides. Donc faut pas que ça devienne une fin en soi et se dire champion paralympique ça suffit pas. Non, pour moi ça suffit largement. C'est juste que mon potentiel, on va dire, pour moi m'amène à des performances qui sont comparables à celles des valides, quoi.
Est-ce que vous pouvez aussi nous parler brièvement du club ligérien dont vous faites partie, il me semble?
Oui, tout à fait. J'ai la chance de faire partie de ce club et d'être un parrain aussi au niveau de la région. C'est important, je pense, d'avoir des têtes d'affiche et je suis honoré d'en faire partie. C'est vrai que maintenant, ça fait 10 ans que je suis au haut niveau. Et puis de représenter aussi le mouvement handisport et d'essayer de montrer une image... de montrer une image positive tout simplement du sport et de rassemblement autour des valeurs de l'olympisme et du paralympisme qui pour moi sont exactement la, la même chose. Donc c'est une très bonne chose. Ouais.
Et justement, vous avez commencé le sport assez jeune. Est-ce que vous avez pu voir l'évolution justement de la reconnaissance du handisport, de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap aux infrastructures et au sport comme pour les valides? Quel est votre constat et quel progrès reste-t-il encore à parcourir?
Mais alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de participer à mes premiers Jeux paralympiques en 2004. J'avais 18 ans et j'ai vu la différence de traitement en fait par rapport à 2004, 2008 et là 2012. Une nette évolution au niveau des médias et au niveau des partenaires institutionnels du sport français. Alors c'est vrai que moi au départ j'avais aucun partenaire et très peu d'athlètes avaient des partenaires. Il n'y avait qu'une ou deux têtes d'affiche du handisport qui pouvaient avoir des partenaires. Aujourd'hui, alors moi j'ai la chance d'avoir pas mal de sponsors et d'autres sportifs et français également qui préparent les jeux ont des partenaires. Donc on sent qu'il y a un vrai investissement et commence à avoir de plus en plus un engouement et une compréhension du handicap. Se dire tout simplement on est des sportifs comme n'importe quel autre, c'est du très très haut niveau et donc pour les Jeux paralympiques c'est aussi important de les suivre. Du coup les médias sont mis dans la boucle également et il y a une évolution à ce niveau là. Il y aura du direct sur internet mais malheureusement toujours pas sur France Télévisions, donc à la télé. C'est vrai que à ce niveau-là, il y a une évolution, mais pour moi, il y a un réel, réel manque par rapport à d'autres pays comme l'Australie, l'Allemagne ou l'Angleterre, qui ont quand même, pour moi, 10-15 ans d'avance. Et je pense que ça passe par les médias de montrer justement le sport sous toutes ses formes.
C'est l'objet, c'est bien pourquoi on est ici sur cette émission. On fera en sorte de passer ce message également. En tout cas, merci Arnaud Assoumani pour ce témoignage. On vous souhaite évidemment bonne chance pour les championnats de France.
Ouais, merci à vous.
Et
merci
également pour les JO. Hein, les minima sont à réaliser avant le 6 juillet, c'est ça hein.
C'est ça, exactement. Oui.
Alors Monsieur Horto, une réaction à ce beau témoignage d'Arnaud Assoumani. J'imagine que c'est un parcours dont la région Pays de Loire peut être fière à travers son soutien.
Tout à fait. Arnaud est soutenu par la région déjà depuis plusieurs années. Il a bénéficié des dispositifs dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un sportif qui a su se donner des objectifs, atteindre le très haut niveau et en même temps faire des études. Je crois qu'il était pas encore très longtemps en formation à Sciences Po Paris. Donc avec un niveau d'études assez intéressant qui augure, je suppose, un avenir, une insertion professionnelle réussie.
Arnaud Assoumani soulignait le manque de médiatisation. Comment pallier à ce phénomène au niveau du secteur du handicap, à votre avis?
Je pense que il en va du soutien de l'ensemble des partenaires. Je pense quand même, depuis les dernières éditions des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, pardon, que l'effet médiatique est de plus en plus important. Bon, il y a pas mal de débats pour savoir si ces Jeux Paralympiques devraient être intégrés aux Jeux Olympiques. Ça peut supposer évidemment des difficultés d'un point de vue organisation. Ça donnerait certainement un peu plus de lumière sur ces épreuves.
Est-ce que c'est un objectif que vous fixez, par exemple, à travers le club ligérien des Jeux paralympiques? Quels sont les comment ce club a été mis en place? Qu'est-ce que c'est concrètement? Quelles ambitions vous avez pour les Jeux olympiques à travers ce club ligérien?
Alors le club ligérien est à l'initiative du comité régional olympique et sportif. Donc c'est un club qui a pour but de soutenir les athlètes handisport et sport adapté dans leur préparation des Jeux paralympiques de Londres, mais aussi de commencer à préparer les Jeux paralympiques de Rio en 2016. Donc c'est l'initiative du CROSS. La région des Pays de la Loire avec le Crédit Mutuel sont les deux piliers de ce club. Et puis un certain nombre d'entreprises, de collectivités nous ont rejoints. Donc avec maintenant une enveloppe d'environ 95 000 euros, ça permet d'aider dans la préparation tous ces sportifs pour effectivement aller à Londres, mais je crois que c'est aussi pour voir à moyen terme vers les Jeux de Rio et de, déjà de commencer à préparer nos jeunes sportifs qui pourraient défendre les couleurs des Pays de la Loire à Rio.
Je vous remercie monsieur Rorto, monsieur Soulard d'avoir été parmi nous aujourd'hui, d'avoir représenté la région Pays de la Loire. Avant la courte page musicale, je tenais à faire une petite virgule sur les nouvelles stratégies de l'Union européenne en faveur du handicap. L'Union européenne, depuis novembre 2010, a entrepris la stratégie européenne 2010-2020 qui est en faveur des personnes handicapées. C'est un engagement qui est renouvelé pour une Europe sans entraves. Le handicap est un enjeu pour tous. Les droits de l'homme en parlent et c'est une question qui relève de la législation. Donc on suivra avec attention les avancées lors de cette stratégie européenne et nous nous retrouvons après une courte page musicale. Church bell pierces a Sunday silence. Stray stamps punctuate concrete. You do nothing but you're somehow tired. Another empty morning, time to get in off the street. Inside the lobby today, passers by in the halls above. Any one of them you could love, but you'll never know anonymous. I watch your face give away your feelings. Shapes emerge like the waves on a reef. Dark surface bending, pulsing, reeling. All up and around your hidden fears, the simple ordered rows of paper trees escort your Amtrak retreat. Look again, they're not as simple as they may seem. The sunlight touches every leaf. Clouds closer to the earth seem to skate much faster across the sky, just slipping away as the upper atmosphere is left behind. You try to follow them out of town toward an afternoon among the tide. But the passengers put you to the end of the line and you're slow to your terrestrial stride. You feel faceless in a crowd of faces. Bitter for years of grand entrances unsung. You're most lonely in the crowded places. You scope around like a silhouette in the sun. Can't you see that your anxiety and solitude's anonymous? Any one of us who you could love, but you'll never know anonymous. Clouds closer to the earth seem to skate much faster across the sky, just slipping away as the upper atmosphere is left behind. Try to follow them out of town toward an afternoon among the tides. But the passengers push you to the end of the line and you're slow to your terrestrial stride.
Sport et citoyenneté.
De retour sur Radio Nantes pour l'émission mensuelle de Sport et citoyenneté, le seul et unique think tank européen dans le domaine du sport. Pour cette troisième partie, on va s'occuper de l'autre pan des politiques en termes de handicap et on va se pencher sur le secteur privé et notamment le rôle des entreprises et des fondations dans le mécénat en faveur du handicap. On a vu que le secteur public, l'État et les régions s'investissaient pleinement sur ces thématiques du handicap. Les entreprises et les fondations ont aussi leur stratégie et cette thématique leur tient également à cœur. Donc on va répondre dans cette troisième partie, à deux questions essentielles. Pourquoi ces entreprises et ces fondations ont choisi de soutenir le handicap et quelles actions mettent-elles en place pour le soutien de ce handicap?
Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Jean-Pierre Mongarny, qui est secrétaire général de la Fondation d'entreprise du Crédit Coopératif. Monsieur Mongarny, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, nous situer la fondation et ses actions à travers le handicap en France?
Oui, donc la fondation Crédit Coopératif est le prolongement mécénat du Crédit Coopératif. C'est l'une des doyennes des fondations d'entreprise puisqu'elle a 28 ans et a été créée avant même que le Parlement ne vote une loi sur les fondations d'entreprise. C'est les grands axes de sa politique sont les suivants. La connaissance et la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, hein, qui est composée principalement d'associations, de coopératives, de mutuelles. À ce titre, la fondation soutient la recherche en liaison avec des laboratoires universitaires, des think tanks, etc. Elle contribue aussi à promouvoir l'économie sociale grâce à des prix, grâce à des actions de mécénat. Le deuxième grand axe, c'est la cohésion sociale et la lutte contre l'exclusion, et c'est dans ce contexte de solidarité et cohésion sociale que se situe notre orientation citoyenneté des personnes handicapées grâce à la culture et au sport dont je vais vous entretenir ensuite. Et puis le troisième grand axe, c'est le développement durable avec ses piliers économiques, social, environnemental et maintenant culturel. Voilà, alors elle a bénéficié de nombreuses récompenses, dont deux très prestigieuses en 2010 et en 2011, grand mécène de la culture en 2010, trophée du mécénat d'entreprise pour l'environnement et le développement durable en 2011. Alors, voilà pour une présentation générale.
Félicitations pour ces beaux objectifs et ces belles récompenses acquise. J'aimerais maintenant que vous nous fassiez un peu un focus sur vos actions en faveur du handicap et les partenariats, les soutiens aux athlètes, etc. Que vous nous en disiez un peu plus sur une fondation qui, à mon sens, n'est pas assez connue pour ses actions qui mériteraient d'avoir plus de visibilité.
Alors, la fondation contribue à soutenir l'accès à la citoyenneté des personnes handicapées grâce à la culture et grâce au sport, donc je vais développer. Grâce au sport, avec des partenariats avec deux grandes fédérations connues, la Fédération française handisport, hein. C'est un partenariat pluriannuel et l'objet du partenariat est de contribuer à l'encadrement grâce au centre de formation de la Fédération française handisport de la pratique sportive car le personnel de terrain de handisport doit avoir une attention toute particulière aux besoins des personnes handicapées qui se consacrent au sport.
Tout à fait.
C'est une formation à destination des enseignants, des moniteurs, des animateurs qui sont auprès des personnes handicapées, sensorielles ou motrices. Et c'est chaque année une quarantaine de cadres régionaux, départementaux, dans l'Hexagone ou Outre-mer, qui sont formés à cet effet.
Vous valorisez également toutes les actions des différentes fédérations et associations les plus investies dans le sport. En quoi consiste le prix Jean-Louis Calvino ?
Alors, Jean-Louis Calvino était un officier qui a été un héros de la Seconde Guerre mondiale et qui a contribué à la création de la Fédération française handisport. Donc, en hommage à M. Jean-Louis Calvino, la Fondation Crédit Coopératif a créé un trophée et qui a décerné à plusieurs fédérations au cours des années passées des récompenses pour celles qui se distinguent par une initiative remarquable en faveur de l'intégration des personnes handicapées. Par ailleurs, nous récompensons également deux clubs, l'un appartenant à la Fédération française handisport, l'autre à la Fédération française de sport adapté chaque année.
Ce soutien se manifeste également à une autre échelle. La radio libre FM qui sera en direct des Jeux paralympiques à Londres, ce projet est également soutenu par votre fondation.
Alors, c'est un partenariat ponctuel, mais symbolique, puisque la radio Vivre FM, qui est une radio associative, hein, qui s'adresse prioritairement au public des personnes handicapées, va transmettre en direct depuis Londres et en totalité le compte-rendu des épreuves qui se dérouleront dans les lieux où se seront déroulées auparavant en juillet, début août, les Jeux Olympiques.
J'espère que cette radio contribuera à la médiatisation du handisport et du sport adapté. Je vous remercie, Monsieur Mongarny, pour cette intervention. Et nous continuerons, le Think Tank Sport et Citoyenneté, à suivre toutes vos actions de très près. Merci beaucoup.
Je vous remercie de la sollicitation que vous avez bien voulu faire auprès de la Fondation Crédit Coopératif d'intervenir sur vos ondes.
Merci Monsieur Mongarny. Avec nous également aujourd'hui Bruce Rock, directeur RSE du groupe Adecco France. Bonjour Monsieur Rock.
Bonjour.
Alors vous travaillez donc pour cette entreprise Adecco France, vous soutenez également les actions sport handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les objectifs pour vous de ces actions et comment ça se manifeste concrètement pour les athlètes en situation de handicap?
C'est vraiment un engagement dans la durée pour le groupe Adecco, hein, en France comme à l'international, en matière de lien entre l'emploi, le handicap et le sport. C'est au cœur des valeurs de l'entreprise. Pour vous donner quelques illustrations, on soutient des sportifs handicapés qui ont une histoire avec nous. Je crois que ça c'est un élément important. Je peux vous donner l'exemple de Florence Gravelier, par exemple, qui était intérimaire en 2000-2001, qu'on a soutenu sur tout le long de sa carrière en tennis en fauteuil. Elle a même remporté de belles médailles à Pékin. Et a rejoint l'entreprise il y a 2 ans. On soutient nos intérimaires aujourd'hui à travers notre filiale Adecco Médical, à nos infirmiers intérimaires qui s'appelle Benjamin Landier, qui va concourir aux Jeux de Londres cet été. Ça va être un grand moment pour l'entreprise. Et puis c'est quelqu'un qui travaille au quotidien, qui incarne notre passion et le métier. Je crois que ça c'est vraiment important. On est sur les compétences et les sportifs handicapés, ils ont des compétences et de l'envie à revendre. Ils permettent d'aplanir le sujet quand quelqu'un a une inquiétude. Et c'est vrai que quand on parle de handicap, il faut certainement travailler sur les stéréotypes et abattre certains biais. Les sportifs handicapés, ils sont vraiment l'incarnation d'une certaine résilience et d'une envie d'aller plus loin par l'énergie, par le sens du contact, par les compétences et puis par une autre vision du monde.
Justement, vous parlez de ces compétences, elles peuvent être mises à profit des entreprises. Est-ce que vous ne travaillez pas également aussi sur l'employabilité de ces personnes et l'adaptation des différents postes de travail pour permettre à ces personnes en situation de handicap d'intégrer l'entreprise et d'apporter une certaine valeur ajoutée?
Absolument. Quand on est un leader de l'emploi, on va s'attaquer à toutes les compétences. Et pour nous, les personnes en situation de handicap, finalement le handicap nous intéresse peu, c'est leurs compétences. Bien évidemment, on va prendre en compte leur handicap et on va leur trouver des postes qui ressemblent à leurs compétences. Et c'est le cas, par exemple, en France, l'an passé, au niveau du groupe, hein, on a mis à l'emploi près de 7000 personnes en situation de handicap. On a un très beau partenariat avec le Comité international paralympique, qui s'appelle le Athlete Carrière Programme, qu'on mène également avec le Comité international olympique, depuis 2004 pour le Comité international olympique et depuis 2007 pour le Comité paralympique. On a accompagné l'an passé 300 athlètes au niveau international vers l'emploi pour envisager avec eux leur reconversion professionnelle. Alors en amont, quand ils sont encore en exercice sur leur première partie de carrière qui est sportive, et puis préparer leur transition vers un emploi plus classique. Je crois que c'est un élément déterminant si on anticipe la sortie de la carrière sportive, de pouvoir préparer au mieux l'arrivée sur le marché du travail en tant que tel.
Tout à fait.
Et puis bien sûr, on fait du suivi dans la durée.
Les auditeurs se posent aussi cette question, pourquoi une entreprise commence à s'intéresser au handicap? Il y a tellement d'actions sociales sur lesquelles on peut être investi. Pourquoi avoir choisi le handicap?
Alors pour nous, c'est vraiment pas une question de charité, loin de là. On est au cœur de notre système de performance. Les personnes en situation de handicap, elles incarnent des valeurs, comme je le disais tout à l'heure, elles sont au cœur de la cité et il ne faut pas les traiter différemment. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est les compétences. Ça fait 25 ans en France qu'on a une démarche qui s'appelle handicap et compétences. Voilà. On a démarré nos premières actions en 1986, à la toute fin 1986. On fête les 25 années complètes cette année. Je crois que c'est une démarche dans la durée. Parce que les personnes handicapées ne sont pas différentes des autres. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment partagé à tous les niveaux de l'entreprise. Sur nos 1200 sites en France, et puis on l'a fait rayonner dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est vécu aujourd'hui de manière complètement naturelle.
Vous êtes véritablement sur le terrain également à travers différents partenariats, notamment Roland Garros ou l'Open de Bercy. Ça se manifeste concrètement sur des événements sportifs.
Sur des manifestations. Tout à fait, sur des manifestations, que ce soit à Roland Garros ou à l'Open de France, qui va avoir lieu à la fin du mois de juin. C'est des manifestations dans la durée. On y est arrivé, en fait, parce qu'on soutenait une sportive en e-sport, sur le tennis en fauteuil, Florence Gravelier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on a gardé notre engagement dans la durée parce que ce sont des manifestations qui nous permettent de garder un lien fort, concret, avec des sportifs de qualité qui vont être accompagnés probablement sur le programme de reclassement des athlètes de haut niveau également. C'est aussi la vitrine du monde de l'emploi. Je crois que c'est important aujourd'hui que pour des personnes qui ne se posent pas la question de leur employabilité, ils sachent qu'Adecco est là pour eux.
Merci Monsieur Roch d'avoir été avec nous aujourd'hui sur cette question.
Monsieur Rorto, Monsieur Mongarni, le mot de la fin approche. Est-ce que vous avez une réaction peut-être à apporter au témoignage de ces fondations, de ces entreprises qui sont réellement investies dans le secteur du handicap?
Non, simplement, on le voit bien, pour faire évoluer les choses, pour faire avancer les choses, il y a à la fois les collectivités, comme peut le faire une région comme la région des Pays de la Loire, mais il y a besoin aussi effectivement de tous les acteurs économiques à travers les entreprises et puis les fondations. Et je crois que c'est par l'action commune de tout le monde qu'on pourra avancer encore plus loin dans ce domaine.
Monsieur Orto.
Écoutez, effectivement, la convergence des mesures, des dispositifs mis en place doivent faire en sorte que les sportifs handicapés ne soient pas des athlètes entièrement à part, mais bien des athlètes à part entière, qui s'affirment comme des sportifs qui ont un handicap et non comme des handicapés qui font du sport.
Ça, c'est une belle parole pour conclure. Nous allons maintenant passer à l'agenda européen avec Maxime pour cette rubrique.
Alors oui, Inès, l'agenda européen à suivre à partir du 19 juin de, de mardi prochain, la réunion de la commission, donc la direction générale culture et éducation au Parlement européen, des débats extrêmement intéressants à suivre dans la perspective des nouveaux programmes de financement 2014-2020. Le 27 juin aura lieu la troisième réunion du groupe d'experts sport, santé et participation. Et le 1er juillet, à vos agendas, le Danemark passe le relais à la Chypre, qui prendra la présidence tournante de l'Union européenne. Vous le savez, ça change tous les 6 mois.
Merci Maxime pour cet agenda. Nous passons maintenant à celui du think tank Sport et Citoyenneté. Une date importante à retenir lundi prochain entre 14h et midi dans les locaux de Kurt Salmon à Paris aura lieu un déjeuner débat avec la navigatrice Anne Liardet qui va présenter son projet Égalité. Une navigatrice qui veut encore participer au Vendée Globe et qui n'a pas trouvé tous les partenaires nécessaires. Donc l'invitation est lancée, venez nombreux, le déjeuner est offert. Le 19 juin aura lieu également le Forum européen, les nouvelles pratiques sportives, avec l'intervention de moi-même pour Sport et Citoyenneté à Lyon sur la question allemande. Le 20 juin prochain, réunion de l'EPAS à Strasbourg. Le 23 juin, l'Assemblée générale de l'ANDES, donc l'Association nationale des élus du sport, qui est également partenaire de notre think tank. Et enfin, pour conclure cet agenda, le 28 juin aura lieu le workshop Europe, sport et handicap, le challenge de l'inclusion, quelle formation pour le personnel encadrant. C'est un workshop qui est organisé par le think tank Sport et Citoyenneté à travers son réseau européen sport et handicap. Nous vous remercions tous et toutes de nous avoir suivis pendant cette heure d'émission sur le handicap dans le sport. Et nous vous donnons rendez-vous d'ici 2 semaines pour une prochaine émission sur le thème des grands événements. Quel héritage pour les citoyens, avec un petit focus sur l'Euro 2012. Merci à tous. Au revoir.
Sport a občanství. Sport und Staatsbürgerschaft.
Euradio Nantes vous a présenté Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne. Pour plus d'informations et pour réécouter ce programme, rendez-vous sur euradionantes.eu.